VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakiza à la présentation de cette édition du lundi 5 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, 140 lycéens enlevés dans leur pensionnat par des hommes armés. En Côte d'Ivoire, les deux anciens présidents Gbagbo et Bédié vont se rencontrer samedi. Plus de 60 migrants morts noyés au large de la Tunisie en moins de 3 jours. De nombreuses entreprises à travers le monde, victimes d'une cyberattaque géante, des hackers réclament plusieurs millions de dollars. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué la nuit dernière un pensionnat de l'état de Kaduna dans le nord-ouest du pays. Ils ont kidnappé près de 140 lycéens selon un responsable de l'établissement. Les détails avec Marius Mohunga.
Emmanuel Paul, professeur, a affirmé que 165 élèves dormaient dans le pensionnat du lycée Bethel Secondary School dans la localité d'Ishikun, mais les assaillants ont amené avec eux 140 élèves, car 25 ont réussi à s'échapper. Il s'agit de la troisième attaque commise dans l'état des Kaduna ces 3 derniers jours. Dimanche dernier, au moins 8 employés d'un hôpital ont été kidnappés, selon la police. 7 personnes ont également été tuées dans des attaques sporadiques dans les localités voisines, d'après Samuel Arouan, chargé de la sécurité au sein du gouvernement de Kaduna. Récemment, des groupes criminels se sont lancés dans des enlèvements des masses d'élèves contre rançon. Plus de 1000 enfants, adolescents ou étudiants ont été enlevés depuis le mois de décembre et certains sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Le gouverneur de l'état des Kaduna, Nasir Ahmad El Rufai, refuse catégoriquement de négocier avec ces groupes armés et de payer des rançons.
Au moins 14 civils ont été tués dans des combats entre soldats et miliciens dans le nord-est de la RDC. 8 autres personnes ont été lynchées par la population, a-t-on appris lundi auprès d'experts et de l'armée. Les 8 victimes du lynchage étaient issues de la communauté Banyabwisha, des Hutus congolais aux lointaines origines rwandaises. L'armée a invité la population à ne plus s'en rendre justice elle-même, mais à dénoncer des complices des groupes armés afin que les forces de sécurité s'en occupent. Les deux anciens présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, ont prévu de se rencontrer samedi, indique un communiqué de ce dernier qui précise que leurs retrouvailles se feront dans son fief de Daoukro. Nathalie Barge.
Après avoir été allié à Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo en 2010, le PDCI de M. Bédié est devenu la principale formation d'opposition en 2018. Il s'est allié au FPI de M. Gbagbo aux dernières législatives de mars. Acquitté en 2019 par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan le 17 juin et s'est rendu dans son village natal de Mama dans le centre-ouest du pays. Il est depuis vendredi à Kinshasa pour une visite privée à l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, avec lequel il s'est lié d'amitié lors de leur détention à La Haye. Son retour en Côte d'Ivoire est prévu jeudi. L'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Affine Guessant, a de son côté appelé le président Ouattara et messieurs Bédié et Gbagbo à se rencontrer pour que la Côte d'Ivoire sorte définitivement de la crise et se réconcilie.
De nouvelles lois récemment adoptées par le Parlement sénégalais pour renforcer la lutte contre le terrorisme font peser un risque sur la protection des libertés fondamentales au Sénégal, a averti lundi Human Rights Watch. L'ONG qualifie la nouvelle législation de vague. Elle pointe le risque qu'elle soit utilisée pour criminaliser les activités politiques pacifiques et porter atteinte à la liberté d'association et de réunion. La garde maritime tunisienne a repêché lundi 21 cadavres de migrants originaires d'Afrique subsaharienne et secouru 50 au large de Sfax, dans le centre de la Tunisie, après le naufrage de leur embarcation qui tentait de rallier clandestinement l'Europe. Les précisions de John Lyndon.
Partis de Sfax, ces migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, tentaient de rallier l'Europe selon le porte-parole de la garde nationale. 4 embarcations parties de cette même ville ont fait naufrage depuis le 26 juin. 78 migrants ont été secourus et 49 cadavres repêchés, selon la même source. Par ailleurs, le 3 juillet, un bateau parti de Libye avec 127 passagers à bord a coulé au large de Zarzis, dans le sud de la Tunisie. 84 migrants ont été secourus et 43 sont portés disparus, a indiqué samedi le Croissant Rouge tunisien. Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011. La majorité des candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe ne sont plus des Tunisiens. Les étrangers, essentiellement des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne, constituent 53% des migrants arrivés en Italie au premier trimestre 2021, selon l'ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux.
L'ONG Médecins sans frontières a appelé lundi l'Italie à relâcher son navire de secours aux migrants immobilisés durant le week-end, affirmant que des infractions reprochées au bateau ne sont qu'un prétexte pour interrompre ses activités. Selon MSF, depuis 2019, les autorités italiennes ont effectué 16 contrôles sur des navires de sauvetage, conduisant à 13 reprises à des détentions administratives. Près de 150 personnes ont été malades après s'être baignées dimanche à Ténès, dans le nord-ouest de l'Algérie, et ont dû être hospitalisées à la suite d'une possible pollution marine, a indiqué le préfet de la région cité par les médias locaux. Trois plages ont été fermées ainsi qu'une station de dessalement locale et une enquête a été ouverte par le procureur général du tribunal d'Oshlef. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est targué lundi de pouvoir recruter sans difficulté 1 million de nouveaux combattants, mais qu'il préférait pour l'heure favoriser une accalmie dans la région du Tigré en guerre. En 1, 2 ou 3 semaines, 100 000 forces spéciales entraînées, armées et organisées peuvent être mobilisées, a déclaré le Premier ministre aux députés. Les déclarations de M. Abiy interviennent une semaine après la chute de Mekele, la capitale régionale aux mains des rebelles des forces de défense du Tigré, et la proclamation d'un cessez-le-feu unilatéral par le gouvernement fédéral. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra jeudi une réunion sur le barrage controversé Gerd, construit par l'Éthiopie en amont du Nil Bleu, objet d'un conflit avec l'Égypte et le Soudan. Cette session publique a été demandée par la Tunisie, membre non permanent au Conseil au nom de l'Égypte et du Soudan, qui devrait être représentée à un nouveau ministériel. L'Éthiopie est opposée à cette réunion, mais devrait aussi y participer. Les autorités sud-africaines qui cherchent à amener devant la justice les frères Gupta, trio d'hommes d'affaires accusés du pillage de ressources publiques, pas avec la complicité de l'ex-président Jacob Zuma, ont indiqué lundi qu'un avis de recherche international d'Interpol a été émis contre deux d'entre eux. Les frères Ajay, Atul et Rajesh Gupta, d'origine indienne, ont fui l'Afrique du Sud peu après la création en 2018 d'une commission chargée d'enquêter sur la corruption pendant les 9 ans au pouvoir de M. Zuma.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De nombreuses entreprises à travers le monde sont victimes d'une cyberattaque géante liée à une faille de sécurité d'un logiciel répandu de la société américaine Kaseya. Yacouba Ouedraogo fait le point sur cette attaque revendiquée par le groupe de hackers Revil.
Selon la firme de cybersécurité ISET, l'attaque a fait des victimes dans au moins 17 pays. Untress Lab, une autre société de cybersécurité, estime que plus de 1000 entreprises sont touchées. Le groupe à l'origine de cette attaque, Revil, revendique 1 million de postes informatiques compromis. La plupart des 800 magasins d'un supermarché suédois, Coop, sont restés fermés ce lundi du fait de la cyberattaque selon la chaîne. Les États-Unis ont été frappés ces derniers mois par ces attaques touchant des entreprises comme le géant de la viande JBS ou le gestionnaire de l'éoduc Colonial Pipeline. Au moins 18 milliards de dollars ont été versés à des hackers usant de rançons logicielles l'an dernier, selon l'entreprise de cybersécurité MCSoft. L'attaque aux rançons logicielles, contraction de rançons et logiciels, est une sorte de prise d'otage numérique. Un programme informatique est subtilement introduit dans un système informatique pour chiffrer toutes ces données. Le propriétaire du système doit payer une rançon s'il veut obtenir la clé de déchiffrement. Le paiement de la rançon se fait généralement en bitcoins, crypto-monnaie permettant aux pirates de rester introuvables et anonymes.
Le Covid-19 n'a pas encore été vaincu, a averti dimanche le président américain Joe Biden. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la minute éco signée John Lyndon.
130 pays et juridictions se sont mis d'accord sur la réforme de la taxation des bénéfices des entreprises multinationales à partir de 2023. Selon Financial Afrique, au moins 19 pays africains soutiennent cette initiative. L'OCDE estime que les droits d'imposition à redistribuer chaque année aux juridictions de marché portent sur plus de 100 milliards de dollars. Au Sénégal, 40% des patrons d'entreprises opérant dans le secteur de l'industrie rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement des matières premières et 40% dans celui des recouvrements des créances. C'est le résultat d'une enquête d'opinion réalisée par la Direction de la prévision et des études économiques. La concurrence est déloyale et l'insuffisance de la demande sont aussi évoquées. Jeff Bezos cède sa place de directeur général d'Amazon à son lieutenant Andy Jassy. Il a conservé toutefois un rôle dans l'entreprise qu'il a fondée il y a 27 ans en restant président de son conseil d'administration. Lancé dans le garage de Jeff Bezos, qui faisait lui-même les colis, Amazon vaut aujourd'hui plus de 1700 milliards de dollars en bourse.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Florent Ibengué rebondit au Maroc, limogé de son poste d'entraîneur de l'AS Vita Club. La semaine dernière, après 9 ans à la tête du club de Kinshasa, Ibengué rejoint le club marocain de Berkane pour un contrat de 2 ans. Présenté à la presse ce lundi, Ibengué a une pensée pour son ancien club.
Chers les clubiens, voilà. Toujours une pointe de tristesse, mais aussi de la joie d'embrasser une nouvelle carrière. Je vous laisse en bonne position pour jouer à nouveau une Coupe d'Afrique. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais toutes les années que j'ai passées au club.
Florent Ibengué, nouveau coach de la Renaissance sportive de Berkane, le club marocain, occupe la 5e place de la Botola Pro à 5 journées de la fin. NBA, sortie des playoffs à rebondissement, les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks s'affrontent à partir de demain en finale. Une affiche inédite, inattendue et équilibrée qui marque un renouvellement de la Ligue. Bagassi Koura.
Oui, beaucoup attendaient un duel de superstars entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets. Mais les Suns et les Bucks leur ont barré la route. Jamais couronné en 53 ans d'existence de la franchise, Phoenix est de retour en finale pour la première fois depuis 1993. Tandis que les Bucks, titrés en 1971, n'avaient plus fréquenté ce niveau depuis 1974. Aucun des joueurs qui seront alignés demain à Phoenix par les deux meilleures défenses des playoffs n'a jamais été champion. Jay Crowder de Phoenix est le seul ayant vécu une finale et c'était l'an dernier avec Miami. Les Suns affrontent une équipe dont le meilleur joueur, le grec Giannis Antetokounmpo, est incertain. Blessé au genou gauche, le double MVP 2019 et 2020 pourrait ne pas être opérationnel pour le premier match, voire davantage. En face, les Suns seront au complet, même si le meneur Chris Paul arrive au dernier stade du championnat avec une main droite blessée, victime d'une déchirure partielle des ligaments.
Merci Bagassi. Tennis, la star japonaise Naomi Osaka dit espérer être au meilleur de sa forme lors des Jeux Olympiques et qu'elle participera aux conférences de presse. La numéro 2 mondiale s'est retirée de Roland-Garros après le premier tour début juin, avant de déclarer forfait pour Wimbledon, invoquant son combat contre l'anxiété. Son retrait du Grand Chelem parisien était la conséquence d'un différend avec les organisateurs sur ses engagements médiatiques. Dans son message publié en japonais, Naomi Osaka s'est dite fière de jouer pour son pays aux JO et de conclure « À partir de maintenant, je me rendrai aux conférences de presse tout en tenant compte de ma santé mentale. Selon elle, la vie privée des sportifs devrait être protégée. »
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kizado retourne avec vous pour aborder les dossiers du jour. Assiégés par des djihadistes, les habitants de Madjouari dans l'est du Burkina ont vidé les lieux après avoir appelé au secours depuis des semaines sans succès. Certains auraient même traversé la frontière pour se réfugier au Bénin. Les villages de la commune de Madjouari sont désormais sous le strict contrôle des militants armés. Ce matin, ceux qui ont pu rallier la capitale Ouagadougou ont rencontré la presse pour une nouvelle fois appeler les autorités à l'action dans leur région. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Madjouari est une commune fantôme située à une centaine de kilomètres de Fadangourouma, la grande ville de l'est du pays. Madjouari est assiégée par des hommes armés depuis des semaines. Des terroristes y règnent en maître. Ce matin à Ouagadougou, ceux qui ont pu fuir Madjouari ont de nouveau lancé un appel au secours.
Depuis le 29 juin, à côté, un ultimatum de 7 jours est donné au chef-lieu de la commune, donc de quitter les lieux.
Dani Nassirou, porte-parole des ressortissants de Madjouari.
Si dans 7 jours rien n'est fait, Madjouari ne sera qu'une histoire et n'existera plus. La base militaire, qui y est depuis 2 ans, pliera bagage pour certainement s'installer dans une autre zone plus burkinabé que la nôtre. L'État n'existe plus. Les forces de défense et de sécurité qui y sont n'attendent que la fin de l'évacuation des habitants pour partir eux aussi par hélico. Car dans cette île forestière, la seule route qui nous lie au reste du monde est en cours d'être coupée et personne ne veut encore l'emprunter. Les terroristes menacent de faire sauter le pont de Singou pour couper définitivement la commune du Burkina Faso. Nous voulons continuer d'être burkinabés. Nous ne voulons pas être déplacés dans notre propre pays.
Cette occupation dure depuis plusieurs semaines. Une réaction des forces gouvernementales se fait toujours attendre. Les populations ont dû fuir par milliers, selon le maire de Madjouari, à VO Afrique, Adji Mathiombiano.
Les populations de 14 000 habitants, il ne reste que 1000 habitants qui restent. Tous les autres ont quitté. Si à mode de culture, si les 8 villages ont quitté, il ne reste que Madjouari et Tambarga seulement qui restent dans la commune.
Pour le maire, toutes les alertes nécessaires ont été données et les autorités sont informées de la situation qui prévaut.
Depuis les premières heures là, on a eu à informer tout le monde. L'information a passé partout, en province, à la région, au niveau national. On a pleuré partout. On a informé qui de droit. On n'a pas eu de réponse. Il n'y aura pas la preuve d'accompagnement s'il n'y a pas Madjouari. Il faut le savoir. Puisque tous les Burkinabés, chacun n'a qu'à se chercher. Chacun n'a qu'à se préparer. Que cette situation-là, ça va nous bouffer tous. C'est comme ça. La lutte où ça part là, c'est grave. On n'a pas d'autorité. On n'a pas d'autorité.
Les analystes pensent qu'il faut une action forte dans la zone. Mamadou Savadogo est expert en sécurité.
C'est vrai qu'il y a un détachement à côté, mais il faut que ce détachement soit renforcé au maximum, qu'il y ait des patrouilles et qu'il y ait un renforcement des dispositifs sécuritaires tout autour de la zone. Et ce n'est même pas seulement dans la zone, presque dans toute la Kompienga et la Tapoua, parce que c'est une zone assez boisée qui est beaucoup infestée par ces groupes armés terroristes. Je pense que les autorités doivent prendre cette menace au sérieux, étant donné que la situation est déjà assez dégradée. En attendant, après la stabilisation, de renforcer la présence de l'administration et de l'État et des forces de défense et de sécurité, parce que c'est une zone qui a un très faible maillage sécuritaire.
En attendant, les populations continuent de fuir pour rejoindre d'autres localités et le Bénin voisin. Nous demandons à toutes les bonnes volontés qui peuvent venir en aide à ces milliers de personnes sans vivre, sans toit et sans aucune assistance parce que la zone est inaccessible, de bien vouloir faire parler leur cœur. Nos frères ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. On lançait comme SOS les ressortissants de Madjouari ce lundi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, ces dernières semaines à Dakar, des séries de noyades de jeunes sont constatées, dont les dernières à la plage de Malika, avec 9 nouveaux cas, dont 5 morts et plusieurs portés disparus. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers fait état de 114 décès par noyade en 6 mois. Avec l'arrivée subite de la chaleur, de nombreux jeunes vont à la plage et se baignent dans les endroits où la baignade est interdite. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
L'arrivée subite de la forte chaleur à Dakar, combinée aux grandes vacances, les plages sont souvent bondées. Malheureusement, il y a eu des séries de noyades et les adolescents sont les plus touchés. Aliou, trouvé à la plage de Yoff, pointe du doigt les parents et les autorités étatiques.
Parents et autorités sont fautifs. Les parents doivent surveiller leurs enfants. Car souvent, les jeunes âgés de 13 à 15 ans sont les plus souvent victimes de noyades. Moi, j'ai une certaine maturité, donc si je viens ici, c'est juste pour prendre du bon temps. Car nos plages ne sont pas sûres ni assez sécurisées.
Awa est venue à la plage avec ses deux filles. Elle estime que chaque parent a le devoir de sensibiliser ses enfants sur les dangers de la mer, notamment les cas de noyades.
En tant que parent, je m'offusque des cas de noyades des enfants. C'est très dur. Nous avons la lourde responsabilité de sensibiliser nos progénitures, car ils sont innocents. Un enfant reste très innocent. Ils ont le droit de s'amuser, mais sous la surveillance des parents. Je communique toujours avec mes filles en ce sens.
Fallou aborde un point important, le manque de surveillance, notamment l'absence ou le manque de maîtres nageurs ou de sapeurs-pompiers.
Dans beaucoup de plages, il n'y a pas de maîtres nageurs. Dans des rares lieux de baignade, on y voit peu de maîtres nageurs. Ils doivent bénéficier de soutien matériel et financier afin de mener à bien leur mission. Il faut savoir que la plupart d'entre eux ne sont que des bénévoles.
Face aux drames qui se succèdent, les autorités ont décidé de couper les accès aux plages interdites et de renforcer la surveillance avec une présence plus importante des sapeurs-pompiers et des maîtres nageurs. Amadou est l'un d'eux. Depuis son poste d'observation, il explique aux parents les bonnes habitudes.
Les parents ou les baigneurs doivent avoir le réflexe dès leur arrivée à la plage de s'adresser à nous. Dans ce cas, nous pourrons leur dire les zones à risque afin qu'ils puissent les éviter. Mais il est très rare de voir ce genre de comportement alors que c'est important. Quand on vient avec sa famille, avec les enfants, il faut impérativement se renseigner afin d'éviter les zones à risque.
L'été vient juste de commencer à Dakar et les cas de noyade se comptent par dizaines. Les responsabilités sont partagées, nous disent de nombreux interlocuteurs. La sensibilisation, la vigilance des parents, le renforcement de la surveillance dans les plages sont autant de mesures qui peuvent aider à réduire le taux de noyade. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Jacob Zuma ira-t-il ou non en prison? L'ex-président sud-africain s'est exprimé hier pour la première fois depuis sa condamnation par la Cour constitutionnelle à 15 mois de prison pour outrage à la Cour. Il a obtenu quelques jours de répit. La Cour a accepté de l'entendre le 12 juillet. Notre correspondant Valérie Hirsch a assisté au discours de Zuma devant un millier de ses partisans en Kandla, son village natal, dans le KwaZulu. Son reportage.
Est-ce que Jacob Zuma peut aller en prison? Jamais. C'est ainsi que Karl Nyos, le porte-parole des anciens combattants de l'ANC, a introduit Jacob Zuma quand il a pris la parole devant un millier de ses partisans rassemblés devant sa résidence à Nkandla, au KwaZulu-Natal. L'ancien chef d'État a parlé en Zoulou. Il est apparu très combatif, presque jubilatoire. Il a comparé sa peine de 15 mois de prison à la détention sans procès pratiquée sous le régime d'apartheid. Zuma a dit avoir été condamné injustement et très lourdement sous un coup de colère des juges parce qu'il a osé critiquer la justice. Il dit être prêt à répondre aux questions de la commission d'enquête sur la corruption si le juge Zondo, qui préside cette commission, se récuse, car selon lui, il serait biaisé. Pour ses partisans rassemblés à Nkandla, les affaires de corruption ne sont qu'un prétexte. En réalité, Jacob Zuma serait pourchassé parce que c'est un homme du peuple qui dérange les intérêts des capitalistes blancs, comme le pense Siabonga Kumalo, qui étudie la politique africaine.
C'est de la propagande politique de dire que l'État a été capturé par des réseaux de corruption sous Zuma. L'État est en fait capturé par les capitalistes blancs. La corruption doit être prouvée par la justice. Jusqu'à présent, il n'y a que des soupçons et Zuma a été condamné sans procès.
Zuma est surtout soutenu par les Zoulous des régions rurales qui se reconnaissent dans cet homme politique issu du peuple et charismatique. Pour ce partisan de Zuma qui préfère garder l'anonymat, la question ethnique est toutefois secondaire.
Il n'a jamais dit qu'il est poursuivi parce qu'il est Zoulou. Les gens qui contrôlent les ressources économiques, les capitalistes blancs, n'aiment pas Zuma. C'est pour cela qu'il est persécuté. Zuma défend les intérêts du peuple. Il dit que 30% des ressources minérales doivent bénéficier aux Sud-Africains. Le président Ramaphosa défend les intérêts des capitalistes parce que depuis qu'il est élu, les gens souffrent.
Les partisans de Mchelozi, comme on appelle Zuma, ont menacé de déclencher des violences si jamais il est arrêté. Des menaces prises au sérieux ces deux derniers jours. 10 ministres sont rendus au KwaZulu-Natal pour pacifier la situation et trouver une solution. Valérie Hirschan-Kandla pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Avant la fête de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet, le président Joe Biden a organisé une cérémonie de naturalisation pour les nouveaux Américains à la Maison-Blanche. Son administration lance également un effort à l'échelle fédérale pour encourager des millions d'immigrants à demander la citoyenneté américaine. Reportage de Patsy Widakuswara, la correspondante de VOA à la Maison-Blanche, récit de Nanit Talani.
Vendredi, 21 nouveaux citoyens américains ont prêté serment à la Maison-Blanche. Cette cérémonie de naturalisation fait partie des efforts de l'administration Biden de faire prêter serment à environ 10 000 nouveaux citoyens dans le cadre de la fête nationale de l'indépendance. Le président Joe Biden.
Merci d'avoir choisi les États-Unis d'Amérique, de croire que l'Amérique est digne de vos aspirations, digne de vos rêves. En faisant ce voyage, vous avez fait plus que déménager dans un nouvel endroit.
Les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis ont également lancé vendredi une initiative interagence pour encourager et aider les résidents permanents légaux à demander la citoyenneté américaine. Alejandro Mayorkas est secrétaire à la sécurité intérieure.
Notre pays est aussi meilleur aujourd'hui parce que son identité et son tissu en tant que nation d'immigrants sont plus forts grâce à vous.
Il y a 9 millions de résidents permanents légaux aux États-Unis qui peuvent être éligibles pour demander la citoyenneté. Les spécialistes de l'immigration affirment que les exhortations visant à encourager les demandes de naturalisation pourraient être entravées par les retards dans le traitement des dossiers des demandeurs. Julia Gellat travaille à l'Institut de politique migratoire.
Avant la pandémie, il y avait environ 650 000 demandes de naturalisation qui attendaient d'être traitées. Et maintenant, le nombre de dossiers en retard a atteint 950 000. Et bien sûr, c'est à cause de la pandémie et du fait que les bureaux des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis ont dû fermer pour des raisons de distanciation sociale. C'est un grand défi auquel l'agence est confrontée.
En février, Joe Biden a signé des décrets visant à réguler l'immigration. Mais son projet de loi sur la réforme de l'immigration croupit au Congrès sans un suffisant soutien républicain. Le président Joe Biden.
J'ai tenu mon engagement et j'ai envoyé un projet de loi sur la réforme de l'immigration au Congrès des États-Unis. Il comprend la sécurité de la gestion intelligente de frontières et une voie vers la citoyenneté pour 11 millions de sans-papiers en Amérique.
Au cours de la cérémonie, le président Biden a honoré Sandra Lindsay en tant qu'Américaine exceptionnelle par choix qui récompense les citoyens naturalisés qui ont apporté des contributions importantes au pays. L'immigrante jamaïcaine, infirmière et directrice pour les soins intensifs à New York, est le premier citoyen américain à s'être fait vacciner contre le COVID-19 en dehors d'un essai clinique. Un vaccin approuvé par la FDA, l'Agence américaine des médicaments.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnon, Lionel Lundamira Kahima et Joselle Morissin. À la présentation, c'était Eric Manelakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.